Agir pour le futur, le magazine de l'impact, proposé par Ecofi, présenté par Fabrice Coustet.
Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Agir pour le futur, un podcast proposé par Ecofi, une série de 6 podcasts à suivre tous les mois sur les enjeux, les impacts et les opportunités des transitions. Alors nous allons nous intéresser pour ce nouveau podcast à nos déchets. Dans une société de surconsommation, parfois de gaspillage, nos déchets alimentaires et autres se multiplient, nous en produisons tous les jours de plus en plus. Alors comment les réduire? Que faire à notre échelle de citoyen? Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à la solution du compost? Et d'ailleurs, faut-il parler de déchets à détruire ou bien les considérer comme des ressources qui peuvent être réutilisées? Plus largement, comment la finance adresse-t-elle cette problématique? Eh bien, c'est ce que nous allons discuter avec nos invités. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau Victoria Laurent. Bonjour Victoria.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet et maître composteur chez DM Compost. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Et nous sommes également en compagnie d'Audrey Schwarz-Ragnetti, gérante chez Ecofi. Bonjour Audrey.
Bonjour.
On est également avec Morgane. Morgane Kinet, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Morgane, vous êtes chargée de communication. Et avec vous, eh bien Morgane, nous allons tout de suite poser les bases du sujet. C'est l'heure de l'édito.
Agir pour le futur, l'édito.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors, il paraît que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Malgré les efforts de quelques industriels qui nous proposent désormais des produits sans emballage, nous consommons de plus en plus d'objets, de gadgets, d'aliments et de produits suremballés. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, chaque année en France, un habitant produit 354 kilos d'ordures ménagères. Et en ajoutant à cela les déchets des entreprises pour fabriquer nos objets, de l'agriculture pour produire nos aliments et ceux des activités de soins pour nous soigner, nous générons pas moins de 13,8 tonnes de déchets par an et par habitant. Et leur finalité est désolante. Nos déchets s'amassent encore et encore jusqu'à former, dans l'océan Pacifique, ce que l'on appelle le 7e continent. D'autant plus que ces ordures polluent toujours plus l'écosystème et elles peuvent même devenir une menace pour notre santé, notre environnement. On parle ici de la peste, du choléra, de pollutions en tout genre. Les enjeux sanitaires sont colossaux. Alors dans tout ça, que fait-on? On enterre? On incinère? On valorise? Et si les déchets devenaient des ressources? Car non, la prévention des déchets ne se limite pas à la réduction de nos poubelles. Il n'y a donc pas de petits changements, du citoyen au politique, en passant par les industriels, la mobilisation de tous les acteurs est nécessaire. Alors, si on consommait mieux et moins, si on luttait contre le gaspillage et qu'on donnait une nouvelle vie à nos objets, vous êtes partant?
Eh bien oui, effectivement, il est temps d'ouvrir ce débat, agir pour le futur spécial recyclage peut-être de nos déchets. C'est parti, le débat.
Agir pour le futur, le débat.
Victoria Laurent, chef de projet et maître composteur chez DM Compost, je me tourne vers vous, on a entendu certains chiffres alarmants, hein, 354 kilos de déchets par an par habitant, une tonne 8 si on voilà, à l'échelle de du pays. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres comme ça inquiétants que vous pouvez nous citer? Où est-ce qu'on en est côté déchets?
Alors côté biodéchets, on est à 30% de nos poubelles, donc 30% de 254 kilos par an par habitant. Vous faites le calcul, ça monte assez vite. Donc les biodéchets, on peut les valoriser par compostage ou par méthanisation. Il faut déjà se dire ce que c'est des biodéchets, donc des déchets organiques. On parle de déchets non dangereux biodégradables de jardin et du parc, mais aussi déchets alimentaires et les déchets produits par des établissements de production et transformation des denrées alimentaires.
D'accord. À l'échelle du citoyen, voilà, qu'est-ce qu'on met dans nos poubelles? Ça va être les épluchures,
les restes de nourriture. Exactement, les épluchures, des fruits et légumes abîmés, le marc de café, les restes du thé. Oui. Des fleurs fanées.
D'accord. Voilà. Est-ce que ça veut dire que demain, il faudrait une poubelle à part? Parce qu'on en a déjà pas mal qui s'accumulent dans nos halls et même dans nos cuisines. Est-ce que c'est vrai, on pourrait imaginer d'avoir quelque chose uniquement par alimentaire? Je vous dis ça parce qu'il y a certains pays qui mettent tout directement dans l'évier. C'est composté quand c'est de la matière organique.
Ben non, en France, il y a des solutions en effet de compostage donc, ou de collecte de biodéchets pour derrière traiter ça par compostage ou méthanisation. Donc en effet, on met en place un petit bio-seau. Donc comme je dis souvent, ce n'est pas une poubelle, c'est un seau pour les biodéchets, donc un bio-seau dans lequel on met nos déchets alimentaires, les déchets de cuisine et de table. Et ensuite, soit on descend ça en bas de notre immeuble, où on peut composter ça sur place, un compostage partagé, ou on va un peu plus loin, quelques mètres plus loin, pour composter ça dans un composteur de quartier.
D'accord. Bon, il n'y en a pas encore partout, hein. Et puis là, on parle peut-être des grandes ou des moyennes villes. C'est assez difficile d'imaginer dans tous les villages d'avoir ce seau à biodéchets.
Ben, ça existe aussi dans les villages. Après, ils mettent ça dans les poubelles qui, derrière, sont collectées.
Ouais. D'accord.
Donc, il y a la solution de compostage de proximité et de collecte.
Côté réglementation, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on se dirige vers potentiellement une obligation de tri des biodéchets ?
Ça existe déjà pour les gros producteurs de biodéchets. Donc aujourd'hui, tous ceux qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an ont déjà obligation de tri et valorisation de déchets alimentaires. Ce seuil va être baissé à 5 tonnes à partir du 1er janvier 2023. Et il y a la loi AGEC, qui est assez récente, qui date de l'année dernière. Donc c'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Et celui-là nous impose l'obligation de tri et valorisation pour tout le monde, donc pour tous, à partir de 1er janvier 2024.
2024, bon, on a encore quelques mois, voire quelques années pour s'y préparer. Audrey Schwartz-Renetti, vous êtes gérante chez Ecofi. Alors vous aussi, dans votre métier, vous êtes amené à, bah, bien sûr, à potasser les chiffres. Qu'est-ce que ça nous dit justement sur ce secteur des déchets ?
Oui, alors du coup, pour les entreprises de l'Union européenne, donc ce marché des déchets, on l'estime à peu près à 600 milliards d'euros, donc à fin 2017. Donc ça représente à peu près 6% du chiffre d'affaires annuel des entreprises. Du coup, c'est quand même un vrai sujet pour les entreprises. Et ce secteur est justement en forte croissance parce que les entreprises ont la pression de plusieurs acteurs, donc la réglementation évidemment, mais également les consommateurs et les investisseurs qui sont soucieux de financer une finance qui est plus verte. Du coup, en termes de réglementation, comme on en parle, elle va jouer un rôle grandissant parce que le paquet économie circulaire, donc, a été adopté en décembre 2017 par la Commission européenne, prévoit plusieurs choses et notamment d'imposer donc d'ici 2030 le recyclage de 60% des déchets municipaux dans l'Union européenne, sachant qu'aujourd'hui on est qu'à peu près 40%, et 70% des déchets d'emballage. Et en parallèle, la mise en décharge sera réduite à 10% de tous les déchets d'ici à 2035. Donc autant dire que c'est quand même demain. Et du coup, dans ce contexte-là, il y a un grand nombre d'entreprises cotées, donc notamment des entreprises industrielles, qui se sont emparées du sujet et qui se sont fixées des objectifs de bonne conduite, donc que ça soit en matière d'emballage ou en matière de recyclage. Par exemple, on peut penser aux géants de la consommation qui se sont fixés justement des objectifs quant au recours à des matériaux réutilisables ou recyclables.
Et c'est vrai qu'on sent que le secteur, ou du moins les industriels, sont de plus en plus conscients aussi. On a des grandes chaînes de fast-food, voilà, qui essayent de réduire aussi les emballages, et c'est plutôt pas mal. Alors justement, Victoria, comment on peut valoriser ces déchets, voilà, dans les gestes de tous les jours ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors il y a plusieurs solutions. ce qu'on peut faire pour réduire nos déchets, déjà prendre en compte les 5 R de zéro déchet. Donc, refuser, réduire, réutiliser, recycler et retour au sol.
Refuser, c'est quoi ? Ça veut dire de pas...
On refuse l'emballage, d'accord, par exemple.
On voit de plus en plus, effectivement, dans certains supermarchés, le vrac qui apparaît, qui arrive en force. Ça veut dire qu'on doit arriver avec nos contenants, finalement.
Exactement.
Nos petites boîtes et prendre cette habitude.
Oui. Oui, tout à fait. Ça permet de réduire les emballages. Vous vous rendez compte aujourd'hui que notre poubelle jaune de recyclage se remplit le plus vite.
C'est vrai, oui. C'est vrai que quand on déballe ses courses et qu'on entasse tout dans son frigo, on voit qu'il y a vraiment des tonnes d'emballages aujourd'hui qui ne servent à rien. C'est joli comme ça pour le packaging, justement, le marketing, ça attire l'œil. Mais ensuite, on ne le consomme pas et on se dit, en plus, on le paye finalement. C'est aussi quelque chose qu'on paye par rapport au produit. Donc on redit les 5 R, donc on refuse, ensuite
On réduit, on recycle, ouais, on réutilise et on a le retour au sol.
D'accord, alors ça justement on y vient, la collecte de biodéchets, comment on peut faire aujourd'hui ? Parlez-nous de votre métier de composteur, ça c'est nouveau d'ailleurs, ou ça vient d'où ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont en pointe par rapport à ça ?
Alors, on peut parler de la Belgique. Il y a le comité Jean Pin en Belgique qui a démarré il y a 40 ans, le compostage de proximité. Le premier maître composteur français a été formé en Belgique. Mmh. Maintenant, ça se développe en France aussi. Il y a des maîtres composteurs formés en France. Il y a des organismes de formation. D'ailleurs, il y a le réseau Compost Citoyen qui regroupe les organismes, les particuliers, les associations autour de compostage de proximité. Donc il y a cette possibilité-là.
Moi, ce qui m'étonne, c'est toujours le terme même, maître composteur. Bon, voilà, il y a des maîtres, comme les maîtres Jedi, il y a des grades.
Maître d'école.
Ouais. Non, alors c'est quoi la différence? C'est-à-dire, comment on devient maître composteur, en fait?
Alors, d'abord, on se forme guide composteur parce qu'il y a plusieurs échelles. Donc, on peut être référent de site de compostage de proximité. Donc, c'est quelqu'un qui gère juste son site en pied d'immeuble et qui anime la vie autour de ce site-là et qui fait en sorte que ça se passe bien. Il y a le guide composteur qui est un niveau supérieur. Donc, il suit la formation de 5 jours et c'est un ambassadeur de compostage. Donc, il peut suivre plusieurs sites et conseiller et même travailler en tant que bénévole pour les associations et pour les collectivités. Mmh. Et maître composteur, donc c'est une formation en plus de 7 jours avec un projet, une soutenance. Donc c'est le niveau le plus haut au niveau de compostage de proximité. Donc maître composteur, il est là pour accompagner, pour sensibiliser, pour conseiller les collectivités, les particuliers sur le compostage de proximité, sur les techniques qui existent, qui fait en sorte que ça se passe bien et qui est aussi là pour former les référents de sites et les participants de sites de compostage de proximité. Pour faire en sorte que les consignes soient respectées.
Qu'est-ce que ça représente à l'échelle du territoire, là, en France? Il y en a combien? On peut citer la Belgique, bon, c'est peut-être plus avancé. En France, comment on se situe? On est bien? On est dans la moyenne européenne? On est en retard?
Au niveau de maître composteur, je dirais qu'on est pas mal. Je connais pas d'autres pays où il y a des maîtres composteurs. Parce que, par exemple, moi, je viens de Slovaquie. En Slovaquie, il n'y a pas beaucoup de maîtres composteurs. C'est un terme complètement nouveau. Donc, ça fait partie de nouveaux métiers aussi en France. Ça existe depuis 10 ou 15 ans. Mais c'est aujourd'hui qu'on entend beaucoup plus parler de maître composteur, puisque le compostage se développe vraiment à une vitesse incroyable.
Oui, on est effectivement de plus en plus sensibilisés. Audrey, on repart sur le point de vue financier. On parle très souvent de déchets, notamment parce que, eh bien, il y en a certains qui sont dangereux, donc qu'il faut traiter. Là, on ne parle pas des éplucheurs, mais de choses beaucoup plus embêtantes pour l'environnement.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un vrai sujet. Les déchets dangereux, c'est vrai que par leur nature, du coup, doivent faire l'objet d'un traitement et d'une valorisation spécifique. Donc, il y a de nombreuses entreprises qui opèrent dans ce secteur-là, notamment des entreprises qui sont pas forcément connues du grand public. Je pense, par exemple, à une société dans laquelle on investit dans nos fonds, donc qui est Befesa. Donc, c'est le leader mondial de la collecte et du recyclage de deux types de déchets dangereux. Donc, d'une part, les poussières d'acier qui sont générées pendant la production d'acier, mais également les résidus d'aluminium qui sont générés pendant la production de l'aluminium secondaire. Dans ce secteur-là, on pourrait citer encore plein de sociétés. Mais voilà, une autre société dans laquelle on investit qui est Clean Harbors. Donc, c'est une société américaine qui, en termes de volume, donc c'est le plus gros acteur dans la collecte, le recyclage et le re-raffinage de pétrole usagé. Donc ça, c'est vraiment très important. Et là, on parle évidemment des déchets dangereux, mais bien sûr, hein, comme on le disait tout à l'heure, le recyclage et le traitement des déchets non dangereux est également une obligation pour les entreprises. Dans ce secteur-là, donc, il y a des grosses entreprises, comme par exemple aux États-Unis, donc, qui est quand même le plus gros producteur de déchets ménagers par habitant dans les pays développés. On peut citer par exemple la société Waste Management, donc, qui est le leader du secteur, ou encore la société Waste Connection. Mais dans ce secteur-là, il y a également des plus petites entreprises donc, qui appartiennent à l'État. Donc, je pense par exemple à une société italienne. Donc, c'est une multi-utilities qui s'appelle ERA et dans laquelle également on est investi dans nos fonds.
Donc, vous investissez vous-même dans ces sociétés. Est-ce que, justement, il y a d'autres moyens d'action pour des gérants comme vous qui, on le rappelle, hein, gérer l'épargne qu'on vous confie? Ça veut dire que... On a envie, bien sûr, en tant que citoyen, que ça soit bien utilisé. Est-ce que vous avez des moyens de pression, justement, pour faire avancer les choses?
Oui, alors bien sûr, hein, en tant que gérant, on peut tout à fait participer à cette dynamique-là. Donc, en nous interrogeant, par exemple, donc, sur la manière dont cette problématique elle est adressée, donc, que ce soit dans l'industrie, dans les services publics ou dans le secteur de l'énergie. Et chez Ecofi, donc, on a un département ISR qui a, par exemple, eu des actions de dialogue avec plusieurs sociétés, donc, comme Renault ou Daimler, sur des sujets très fondamentaux, donc comme le recyclage des batteries. Mais en tant que financier, on a d'autres moyens d'intervenir. On peut également investir dans des sociétés qui proposent des solutions alternatives à des déchets dont le recyclage est encore très problématique aujourd'hui. Donc, par exemple, le plastique, hein, parce que pour rappeler quelques chiffres, on estime que depuis les années 50, il y a eu plus de 9,2 milliards de tonnes de déchets plastiques qui ont été produites. Et parmi ces 9,2 milliards, il n'y en a que 9% qui ont été recyclés. Donc, le plastique, c'est une vraie problématique. Et comme aujourd'hui, il est encore difficile de s'en passer dans certaines utilisations, donc je pense par exemple à la santé ou à l'alimentation, donc que ça soit pour des raisons de sécurité ou des raisons de praticité tout simplement. Et ben dans ce cas-là, il y a des alternatives qui peuvent être intéressantes. Mmh. Donc je pense par exemple aux bioplastiques, donc qui sont des plastiques biosourcés et biodégradables. Donc nous, dans nos fonds, on investit dans une société qui s'appelle Corbion, qui est une société néerlandaise et qui est le leader mondial dans la fourniture de l'acide lactique. Et en fait, à partir de cet acide lactique, donc qui lui-même est produit à partir de canne à sucre, on peut produire un bioplastique qui est le PLA. Donc c'est un acide polylactique et ce PLA, justement, il a l'avantage de permettre de diversifier les sources de matières premières, de limiter la dépendance au pétrole parce que justement il est composé de matières renouvelables, donc que ça soit le maïs ou la canne à sucre, et il est biodégradable.
Bon, c'est donc, bien, on révise un peu de physique chimie les deux à la fois avec vous. Donc du coup, ça veut dire que même si on jette, finalement, ce sera pas nocif pour l'environnement ou ça pourrait être très facilement recyclable ou...
Ça, c'est biodégradable, donc c'est plus facilement recyclable que du plastique. Voilà, ça reste non compostable, donc idéalement, pas de plastique. Mais à défaut, le bioplastique, je pense que ça peut être une bonne solution.
Alors, ce qui est intéressant quand on entend le discours justement de toutes ces entreprises, Victoria Laurent, c'est que les entreprises ne parlent pas de déchets, elles parlent de ressources, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut utiliser, réutiliser, et qui peut produire à nouveau quelque chose. Est-ce que c'est l'enjeu ? Et question complémentaire, s'il ne se passe rien, si on ne fait rien, ben voilà, à quoi on se destine ?
Alors en effet, il y a des déchets qui sont des ressources, il ne s'agit pas de tous les déchets. Et il y a des déchets qu'on peut réutiliser, recycler, les biodéchets, on peut les transformer en compost, en biogaz. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on va continuer à polluer, tout simplement, et on va laisser la planète... sur laquelle nos enfants ils vont jouer sur des tas de déchets. Je ne pense pas que c'est un avenir radieux pour nos enfants.
Ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux les sensibiliser du coup au compost, c'est ça ? Et en plus, c'est pédagogique.
Complètement. Le compostage de proximité, c'est pédagogique, non seulement pour les enfants, mais pour les adultes aussi, parce qu'ils peuvent observer ce qui se passe dans les composteurs. Donc, ils voient le cycle de la nature. Dans les écoles, ça peut être associé au programme scolaire, SVT, les maths, parce qu'il y a des calculs à faire. Donc c'est très intéressant, les enfants renouent avec la nature, nous tous, avec le compostage, on peut renouer avec la nature, on voit ce qui se passe, comment se dégrade la matière, on voit des animaux de compost, donc les vers de terre ne font plus peur, les cloportes non plus, des collemboles, des petites bêtes, au final on les aime.
Et derrière... Au début c'est pas terrible, on voit Morgane qui fait, qui fait une moue, c'est pas très ragoûtant, mais finalement on s'aperçoit que c'est utile.
Complètement. Et quand on voit le résultat, le compost derrière, on se dit, voilà, nos épluchures, c'est devenu le compost. C'est comme de l'humus. C'est extraordinaire.
Ouais. Qui peut vous contacter aujourd'hui pour mettre en place cette démarche, justement, à l'échelle d'une collectivité ou...
Nous, on travaille avec des collectivités ou des particuliers, des entreprises, donc tous ceux qui souhaitent valoriser les biodéchets. Les collectivités, souvent, ça passe par un marché public. Les entreprises, ils peuvent nous contacter soit pour le compostage ou pour la collecte, parce que nous avons développé aussi une micro-plateforme de compostage de proximité à Valenton. Donc c'est une démarche semi-industrielle, donc on sort des seuils de compostage de proximité en pied d'immeuble, donc on traite des volumes un peu plus importants. Mais ça reste quand même moins important qu'une installation classée pour l'environnement.
Vous disiez tout à l'heure que ça progresse très fortement, donc en Belgique, en France, dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a une volonté politique, je ne sais pas, de Bruxelles, de l'État français, justement, d'accélérer dans ce domaine ?
Déjà, on voit que la loi AGEC a accéléré l'obligation, parce qu'avec la loi la transition énergétique pour la croissance verte, l'obligation de tri et valorisation s'était fixée à 2025. Là, c'est devenu 2024, donc on a avancé d'une année. Donc, en effet, il y a une volonté politique par les lois. Après, les lois, est-ce que c'est suffisant si derrière, il n'y a pas de pédagogie, sensibilisation, accompagnement et aussi les contrôles ? Parce que les sanctions sont fixées, mais les contrôles ne sont pas toujours mis en place. Donc, en effet, il faut la volonté politique aussi sur le terrain, pas seulement par les lois. Mais on le voit dans les collectivités, il y en a qui commencent à bouger, qui commencent à se préparer pour être là, les précurseurs, et être prêts pour 2023.
Bon, en tout cas, ça arrive à grands pas. Audrey, vous qui êtes gérante justement pour ce que la thématique intéresse et qui voudrait, je le disais tout à l'heure avec leur épargne, agir, sinon pour le futur, agir pour le climat. Justement, qu'est-ce qu'on peut leur recommander comme fonds d'investissement ?
Ben justement, chez Ecofi, il y a un fonds qui s'appelle Agir pour le climat. Donc, il est un fonds ISR et solidaire qui est labellisé Greenfin et qui vise à répondre justement à l'urgence de la transition écologique et énergétique.
D'accord. Qu'on trouve partout.
Exactement.
Surtout dans tous vos contrats d'assurance vie, vous rapprochez de vos conseillers en gestion de patrimoine ou des plateformes de transactions. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur les solutions compostage, donc pour réduire ces déchets, réduire en tout cas les biodéchets, les réutiliser, les voir se transformer sous nos yeux. Rôle pédagogique, voilà, hein, les vers de terre. Pourquoi pas ? Pour vos enfants, ça va les passionner. Et puis réduire aussi le gaspillage alimentaire. On sait qu'il y a de plus en plus de solutions pour prévenir cette prolifération des déchets, les réduire et bien sûr les valoriser. Merci à nos experts du jour. Victoria Laurent, chef de projet et maître composteur chez DM Compost. Merci Audrey Schwarz-Ragnetti. Je rappelle que vous êtes gérante chez Ecofi. Merci Morgane, chargée de communication chez Ecofi aussi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast Agir pour le futur.
Agir pour le futur, le magazine de l'impact proposé par Ecofi, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.